À partir de la crise du Real brésilien en 1999 et surtout de la crise argentine en 2001, le Mercosur piétine parce que sont revenus un peu les problèmes de protectionnisme interne et surtout, il a été mis en évidence une immense asymétrie de puissance entre les membres. C'est-à-dire que le Brésil, peu à peu, devient une puissance avec des ambitions globales et qui creuse l'écart d'une manière extraordinaire avec les voisins, en particulier avec le vieux partenaire argentin. L'Argentine reproche au Brésil de monopoliser l'arrivée des fonds d'investissement étrangers. Et c'est normal, puisque la plupart des investisseurs étrangers choisissent le marché brésilien, qui est beaucoup plus grand que celui des voisins. Et donc, les acteurs économiques argentins se plaignent que le Brésil est en train de monopoliser cette affaire. Donc, il y a actuellement le Brésil qui est en train de jouer toute une carte mondiale, globale. Il veut participer comme membre permanent du Conseil de sécurité. C'est l'un des principaux articulateurs du G20, aussi bien l'OMC que le G20 financier. Donc, il a tout un agenda hors de la région. Il espère avoir un rôle beaucoup plus important dans le commerce international, donc il est très favorable au libre-échange, tandis qu'un pays comme l'Argentine, qui a vu son industrie péricliter au cours de ces années, est devenu beaucoup plus protectionniste.
Le Venezuela devrait faire partie à terme du Mercosur. Est-ce que c'est une chose positive pour ce marché ?
L'entrée du Venezuela dans le Mercosur risque de rendre encore le Mercosur encore plus ingouvernable dans la mesure où les visions de M. Chavez en matière économique ou politique sont totalement différentes de celles des autres membres du Mercosur. Donc on risque encore d'avoir beaucoup de paralysie du Mercosur. Et en fin de compte, le problème central, c'est celui de l'asymétrie entre le Grand Brésil et les pays autour et l'incapacité des élites brésiliennes aujourd'hui d'accepter de payer le prix d'un leadership dans la région et donc de payer le prix de donner un certain nombre d'avantages aux voisins pour qu'ils puissent rester dans cette structure.
L'Espagne a pris la présidence tournante de l'Union européenne. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'elle tourne largement sa politique étrangère vers les pays d'Amérique du Sud ?
Il y a en Amérique du Sud en particulier une relation très ambiguë vis-à-vis de l'Espagne. C'est-à-dire oui, l'Espagne est un peu très proche, mais en même temps c'est l'ancienne puissance coloniale. Donc on se méfie un peu de la politique espagnole dans la région. Et d'ailleurs les entreprises espagnoles qui ont eu un très très grand rôle dans les derniers 10-15 ans en Amérique latine avec beaucoup d'investissements ont eu aussi beaucoup de déboires à cause justement de cette attitude un peu de rejet d'une trop grande présence espagnole. Mais les Espagnols veulent relancer la fameuse négociation entre le Mercosur et l'Union européenne pour créer une zone de libre-échange entre les deux blocs, qui est paralysée depuis 2004. D'autant plus que dans le Mercosur, on aura aussi la présidence de l'Argentine, cette fois la présidence tournante de l'Argentine, qui elle est le pays le plus réticent à faire des accords. Donc peut-être que l'Argentine et l'Espagne ensemble pourront relancer cette idée de boucler l'accord Union européenne-Mercosur, maintenant que le round de Doha à l'OMC est paralysé. Des deux côtés, on a plutôt intérêt à avancer un peu sur ce chemin-là, mais rien n'est moins sûr.